Vous écoutez, on lit pour vous.
Une adolescente de la DPJ, coupée de sa culture. Un texte de Jessica Nadeau paru le 27 mai 2024 dans Le Devoir. Une adolescente inuite de 16 ans qui a été privée de tout contact avec sa famille et sa culture pendant des années alors qu'elle était placée sous la responsabilité du directeur de la protection de la jeunesse, DPJ, dans le sud du Québec, s'est retrouvée en voie d'assimilation très avancée, déplore la juge Peggy Warolin dans un jugement rendu public en avril 2024. Une décision qui illustre les différents problèmes liés au placement des enfants à des milliers de kilomètres de chez eux, rapporté par Le Devoir. Lisa, un prénom fictif visant à protéger son identité en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, avait 5 ans lorsque la DPJ est intervenue dans sa vie pour la première fois en raison de problèmes de violence conjugale et de consommation de ses parents. 2 ans plus tard, après des dizaines de placements, elle s'est retrouvée dans le sud du Québec et n'est jamais, depuis, retournée vivre au Nunavik. La juge constate que, dans l'une des familles d'accueil où elle a vécu pendant plus de 3 ans, l'enfant n'a eu que très peu de liens avec sa famille, car la mère d'accueil trouvait que Lisa avait des comportements difficiles dans les jours et les semaines suivant ses contacts. Elle a donc voulu la protéger en les minimisant au maximum. C'est ainsi que, progressivement et considérant son âge à cette époque, elle s'est distanciée de tout ce qui représente sa culture, peut-on lire dans le jugement de près de 60 pages. Non seulement une telle solution allait à l'encontre des dispositions de la loi, car contraire à l'intérêt de l'enfant, mais elle a contribué à enraciner un traumatisme qui est aujourd'hui d'autant plus difficile à travailler. Nous ne saurions trop répéter que l'objectif de la loi est de mettre fin à une situation de compromission, certainement pas à l'empirer. Le protocole prévoit pourtant un minimum de 2 visites dans le Nord par année, et l'élaboration d'un plan visant au maintien de l'héritage culturel des enfants inuits. La juge Warolin rappelle que la DPJ a l'obligation de s'assurer que ces dispositions légales sont respectées lorsque l'enfant est placé hors Nunavik. Dans la situation qui nous occupe, l'enfant avait été tellement coupé de sa culture qu'elle se retrouvait en voie d'assimilation très avancée. 64 placements. En 2021, après avoir fait l'objet d'un total de 64 placements en famille d'accueil et de 14 placements en urgence en 7 ans, Lisa est placée dans un centre de réadaptation. Bien qu'il existe de telles ressources dans le nord du Québec, il a été convenu par l'équipe traitante de la garder dans le sud puisqu'elle n'avait pas de plan de vie là-bas, relève la juge, qui a entendu différents intervenants pendant les auditions. La décision clinique de vouloir la maintenir ultimement au sud pouvait alors s'expliquer, mais ne pouvait se justifier ni d'un point de vue thérapeutique ni d'un point de vue légal, constate la juge. En arrivant dans un centre qui accueille des jeunes filles inuites hors Nunavik, Lisa a eu du mal à s'adapter, comprenant soudainement qu'elle n'avait pas pu, pendant toutes ces années, profiter des mêmes droits que ses consœurs. La réexposition soudaine et sans préparation à l'idée qu'elle serait désormais dans une unité avec des filles qui parlaient l'Inuktitut, qui voyageaient à la maison pour des visites, l'a forcée à prendre conscience de sa réalité, explique la pédopsychiatre qui a suivi Lisa dans un témoignage retranscrit dans le jugement. Est-elle inuite ou non? Elle ne parle pas l'Inuktitut. Elle n'a pas de relation avec ses parents. Elle n'a pas de visite à la maison. Traumatisme. Contre l'avis de professionnels, Lisa a été encore une fois changée de milieu lorsqu'une place est libérée dans un autre centre dans le sud, ce qui a compromis son suivi thérapeutique. Rappelons que les traumas de X proviennent de son vécu au nord, certes, mais ils proviennent également de ce qu'elle a vécu au sud et ce qu'elle a continué à vivre durant son placement, ce qui est d'autant plus préoccupant, écrit la juge. L'adolescente, depuis, réclame une reconnexion avec sa communauté. Or, Lorsqu'un précédent juge ordonne la reprise des visites dans sa communauté, celles-ci sont retardées en raison de problèmes logistiques, déplore la juge Peggy Warolin. La preuve démontre de façon prépondérante que X a été coupé de sa culture et que la reconnexion a été retardée en raison d'opinions cliniques allant à l'encontre de son intérêt et en raison de considérations matérielles qui n'auraient jamais dû être à la base des décisions prises. X a ainsi été privé de son droit à la préservation de son identité culturelle. Cette violation traumatisante qui s'est échelonnée sur plusieurs années s'est ajoutée au traumatisme déjà présent. Discrimination systémique. La juge déplore le manque de ressources au Nunavik pour les adolescents inuits qui ont besoin de services de réadaptation, ce qui les force à être placés dans le sud du Québec lorsque les centres de leur région débordent. Le tribunal ne cherche pas à savoir ici ce qui empêche ou pas la construction de centres au nord. Le tribunal ne peut que constater cependant qu'au Québec, aucun autre groupe d'adolescents en besoin de services de réadaptation ne doit se soumettre à un placement si loin de son milieu d'origine. En plus de constituer une discrimination systémique, la distance entre le lieu d'hébergement de l'adolescent et sa communauté, la complexité du déplacement et la coupure de liens affectifs et culturels vont à l'encontre des objectifs de la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. La juge Warolin ordonne une série de mesures visant à assurer la stabilité de Lisa, des suivis thérapeutiques et une réelle reconnexion à sa culture. Elle ordonne également à la DPJ de revoir son mode de fonctionnement afin de pouvoir remplir intégralement ses obligations, comme le prévoit la loi. Elle invite la communauté à prendre la place qui est la sienne pour faciliter l'organisation d'activités culturelles lors des visites des jeunes au Nunavik. Elle ordonne enfin la transmission du jugement au ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, et au ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière. La présente décision illustre les constats faits par le juge Jacques Vien dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Écoute, réconciliation et progrès demeurent d'actualité. Conclut la juge. C'était une adolescente de la DPJ coupée de sa culture, un texte de Jessica Nadeau, paru le 27 mai 2024 dans Le Devoir.
Le mystère du melon de Montréal enfin résolu? Un texte de Daphné Cameron, paru le 8 juin 2024 dans La Presse. Le vrai melon de Montréal serait-il bientôt de retour dans nos assiettes? Deux découvertes récentes à la Pocatière et à Montréal permettent d'espérer que ce fruit mythique, qui a fait la renommée du Québec d'antan et que l'on exportait à prix d'or vers les plus grandes tables américaines, puisse enfin revivre dans nos jardins. Un cultivar du fameux melon de Montréal a été réintroduit dans nos jardins il y a 30 ans, mais les doutes persistent à propos de son authenticité. Doutes qui pourraient bientôt être levés. D'abord, à l'aide d'une douzaine de semences du fruit à la chair tendre et sucrée qui auraient été retrouvées au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation à la Pocatière. Ensuite, grâce à l'herbier Marie-Victorin, conservé au Jardin botanique de Montréal, où deux spécimens de la plante, récoltés en 1891 et en 1894, viennent aussi d'être repérés dans les archives. Le melon de Montréal a fait la renommée du Québec au tournant du 20e siècle. La légende raconte qu'une seule tranche se vendait 1 $ en 1905 dans les grands hôtels de Boston, New York et Chicago. Il a disparu des champs aux alentours des années 1940-1950. Mais son aura persiste à ce jour. Sébastien Hudon est né et a grandi à la Pocatière, la porte d'entrée du Bas-Saint-Laurent. Lorsqu'il a été nommé conservateur aux expositions du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, il y a quelques mois, il a commencé à monter une exposition sur les semences ancestrales, présentée à l'été 2024. Au fil de ses recherches, il a retrouvé un magnifique tableau synoptique réalisé entre 1938 et 1940 par un finissant en agronomie nommé Maurice Couture. On y retrouve 456 capsules de différentes variétés de semences. Il a été restauré juste avant mon arrivée au musée, raconte Sébastien Hudon. Je l'ai trouvé dans le local de conservation en parfait état. Il n'avait même pas été déballé. Mon œil a tout de suite été attiré par la section des courges-melons et c'était écrit « Muscat de Montréal ». Je me suis retenu pour ne pas danser dans le musée. Sur les traces du melon de Montréal. Il est difficile de déterminer quand le Montréal Musk Melon, aussi connu sous les noms de melon muscade et de Montréal Nutmeg, a été introduit sur l'île. Certaines sources l'attribuent aux Jésuites, d'autres sources à la famille Descaries, dont les membres l'ont cultivé à la fin du 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle sur leurs terres agricoles situées là où se trouve aujourd'hui l'autoroute qui porte leur nom. En 1997, un journaliste de la Gazette, Mark Habley, mène une grande enquête pour retrouver le fruit disparu. Il retrouve 50 graines de melon provenant de Montréal dans une banque de semences de l'Iowa. Il en confie une douzaine à un agriculteur de l'île Perrot. Conclusion de l'expérience, chaque graine avait produit un fruit d'aspect différent. La plupart d'entre eux étaient assez petits, racontait alors l'article du quotidien anglophone. Or, les photos d'archives montrent un melon à chair verte de très grande taille. L'un des melons avait un goût insipide, un autre avait la forme d'une torpille, un autre encore était long et mince. Mais un fruit a été identifié comme pouvant faire revivre la variété. À partir de là, les semences ont été distribuées à de nombreux jardiniers amateurs soucieux de ressusciter le patrimoine agricole. Le vrai? Rapidement, des doutes ont été émis sur l'authenticité des semences, car les fruits étaient petits et avaient un goût souvent décevant. D'autres restaient convaincus d'avoir la bonne souche et demeuraient persuadés qu'un travail de sélection des meilleurs fruits était nécessaire pour redonner aux fruits son goût sucré d'antan. Les techniques agricoles ont ici beaucoup changé. À l'époque, la culture était fertilisée avec du cotin de cheval. Les champs étaient aussi situés près du Mont-Royal, où le microclimat était propice à sa croissance. Malgré ce débat, l'affection pour le melon de Montréal perdure. Le melon de Montréal, c'est le point de départ d'une réflexion beaucoup plus vaste, pense Sébastien Hudon. Celle de gens sérieux, curieux, qui veulent mordre dans un fruit comme on le faisait dans les années 1930 avant l'arrivée de l'agriculture industrielle. De gens qui veulent mordre dans un fruit qui a les qualités gustatives, la texture, la flaveur complète et le profil qui nous permet de dire « Voici ce qui me relie à mon ancêtre sur le plan des sensations. Je mange ce melon-là aujourd'hui et je reproduis le geste de mon ancêtre. Je goûte comme lui goûtait ce melon. » Vous écoutez « Le mystère du melon de Montréal enfin résolu », un texte de Daphné Cameron, paru le 8 juin 2024 dans la presse. Des plans retrouvés. Dans sa quête, Sébastien Hudon a aussi pris contact avec Étienne Léveillé-Bourret, conservateur de l'herbier Marie-Victorin. Cette vaste collection, abritée dans un bâtiment situé au Jardin botanique de Montréal, contient 650 000 plantes séchées. Dans l'armoire numéro 285, sur l'étagère numéro 7, Étienne Léveillé-Bourret a trouvé deux spécimens de plants cueillis par Joseph Célestin Carrier, un père de Sainte-Croix établi au Collège de Saint-Laurent, devenu aujourd'hui le cégep du même nom. Il y a tellement d'objets qu'on n'a pas un catalogue complet de ce qui existe dans l'herbier. C'est pour cela que, quand on a trouvé le spécimen du potentiel melon de Montréal, on ne savait pas qu'il était ici, raconte celui qui est également professeur adjoint au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Il explique qu'il serait maintenant possible de séquencer l'ADN de ces plants. Avoir l'aspect des feuilles. C'est encore un peu vert. Il y a de bonnes chances que ça puisse donner du matériel génétique, évalue-t-il en montrant le plant séché. Avec l'avancée de la science, cette découverte ouvre de nombreuses possibilités. Avec de nouvelles graines qui sont potentiellement le melon de Montréal, on pourrait séquencer ce qui germe de ces graines-là, le comparer avec des plantes qui datent vraiment de la fin du 19e siècle et regarder vraiment si c'est similaire génétiquement, explique-t-il. Faire germer le passé. Sébastien Hudon aimerait faire séquencer l'ADN des semences. Il a déjà contacté quelques chercheurs pour démarrer ce projet. Il aimerait aussi tenter de faire germer des semences du melon de Montréal, mais pas tout de suite. Le local de conservation du musée, situé sur le campus de la première école d'agriculture permanente au Canada, fondée en 1859, regorge de pots maçons remplis de semences patrimoniales amassées au fil des ans. Avec l'aide du centre de recherche Bioptère, son équipe tentera d'abord de raviver des semences d'une poignée d'autres variétés potagères en suivant un protocole très strict. L'une des variétés est un autre melon, le Champlain doré, un melon brodé à chair orangée cultivé à partir des années 1930. Une démarche remplie d'espoir car plus les années passent, moins il y a de chances qu'une semence germe. Les semences, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'elles existent, elles sont viables. Ce sont des embryons qui attendent le bon moment pour se réveiller et elles peuvent, dans certains cas, demeurer vivantes pendant des centaines, voire des milliers d'années, explique-t-il. S'il réussit à raviver le Champlain doré, le protocole pourrait ensuite s'appliquer au melon de Montréal. Alors que les changements climatiques bouleversent l'agriculture, il estime que le Champlain doré est plus intéressant à réintroduire car il est beaucoup plus hâtif. Il produit des fruits après de 55 à 65 jours contre de 70 à 80 jours pour un melon traditionnel. Les semences ancestrales ont parfois passé à travers des centaines de milliers d'années. Elles sont déjà adaptées à toutes sortes de possibilités et de conditions climatiques, soutient Sébastien Hudon. Si l'expérience est un succès, les plants en croissance seront présentés lors de l'exposition cet été. Le public pourra aussi suivre le résultat à distance en direct sur le web à partir des laboratoires de Bioptère. Patrice Fortier, un artisan semencier du Kamouraska qui travaille comme consultant pour l'exposition, ménage ses attentes mais trouve l'aventure très excitante. C'est un beau rêve. C'est vraiment un bel exercice à faire parce qu'il y a des trésors. Il y a des variétés qui n'existent plus là-dedans, qui ne sont plus vivantes, des variétés avec des traits très désirables selon ce qu'on en lit, mais qui, allez savoir pourquoi, ont disparu, souligne-t-il. Il qualifie la découverte potentielle des semences du melon de Montréal d'extraordinaire. Si jamais ces graines-là s'avèrent correspondre à la description, c'est un trésor immesurable, dit-il. Les semences, Je vois ça comme la base d'un pays, la base d'une société. C'était « Le mystère du melon de Montréal enfin résolu », un texte de Daphné Cameron, paru le 8 juin 2024 dans la presse.
Détecter le cancer des ovaires avant qu'il se propage. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 16 juin 2024 dans La Presse. La lutte contre le cancer des ovaires n'a pas beaucoup progressé dans les dernières décennies. Des chercheurs de l'Université McGill pensent être à la veille d'un grand bond en avant dans ce dossier. Les cancers des ovaires sont généralement détectés très tard, au stade 3, explique Lucie Gilbert, directrice du département d'oncologie de l'Université McGill. Avant, il n'y a pas de symptômes. Chaque année, la Société canadienne du cancer enregistre 1600 cas et 400 décès du cancer du col de l'utérus contre 3000 cas et 2000 décès de cancer des ovaires. La chanteuse Mélanie Renaud, par exemple, est morte en mai du cancer des ovaires à l'âge de 42 ans. Avant le test PAP, le cancer du col de l'utérus était le deuxième parmi les plus meurtriers pour les femmes au Canada, dit la gynécologue spécialisée en oncologie. Aujourd'hui, plus de femmes meurent du cancer des ovaires à Montréal que du cancer du col de l'utérus dans tout le Canada. En 2012, la docteure Gilbert a publié dans le Lancet Oncology une étude qui a changé comment elle voyait le combat contre le cancer des ovaires. Près de 1500 femmes avaient eu un dépistage sanguin et ultrason transvaginal de ce cancer. Nous avons pu améliorer les résultats de la chirurgie pour les cas de cancer des ovaires, mais le stade où il était détecté restait avancé. C'est alors qu'elle a réalisé que le cancer des ovaires migre vers d'autres organes à un stade précoce. Dans le cancer du côlon, par exemple, le patient a des saignements, des douleurs, avant que le cancer sorte du côlon. Le cancer des ovaires passe de l'utérus, des trompes de Fallope, vers l'abdomen, avant de causer des symptômes. Les symptômes sont liés à la présence de métastases du cancer des ovaires dans l'abdomen. Analyse génétique. Pour détecter le cancer des ovaires à un stade précoce, afin de diminuer la mortalité, il faut donc l'attraper quand il ne consiste qu'en quelques cellules dans les ovaires. Les analyses sanguines et les ultrasons ne suffisent pas. Il faut détecter les mutations dans le génome dès qu'elles surviennent, souligne la docteure Lucie Gilbert. Juste avant la pandémie, la docteure Gilbert a lancé le projet DOVE-EE-Gène de diagnostic précoce des cancers des ovaires. Malgré l'interruption due à la pandémie, nous avons recruté 4 600 participantes alors que notre objectif était de 3 600, dit-elle. Environ 90 % d'entre elles n'avaient pas d'historique familial de cancer des ovaires. Des résultats préliminaires encourageants sont présentés ce printemps aux organismes subventionnaires. Plus d'une vingtaine de mutations sont détectées par les analyses à la suite d'un prélèvement par le vagin. Tous les cancers des ovaires sont causés par des mutations, précise la docteure Gilbert. Depuis l'automne 2013, Québec envisage de recourir à un autotest pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Serait-ce possible pour le cancer des ovaires? Non, parce que si les cellules cancéreuses sont arrivées dans le vagin, où elles peuvent être prélevées par autotest, le cancer est déjà dans un stade avancé. Ce n'est pas le cas pour le cancer du col de l'utérus. Elle salue, par contre, la volonté de Québec de mettre sur pied le programme d'autotest du cancer du col de l'utérus. Le cancer des ovaires touche davantage les catégories socio-économiques plus aisées et qui ont moins d'enfants, ce qui est un facteur protecteur. Mais le cancer du col de l'utérus touche davantage les groupes plus défavorisés. Souvent, ce sont des femmes qui n'ont pas de médecin ou de temps pour voir le médecin et avoir un test PAP. Si on leur envoie un autotest facile à faire, avec un suivi téléphonique, ça devrait augmenter le taux de dépistage. Je crois que le Québec sera un leader sur ce point. Détecter le cancer sur une carte de crédit? De l'autre côté de l'Atlantique, un biologiste du Collège impérial de Londres essaie une autre approche. Début 2023, dans la revue JMIR Public Health and Surveillance, il a montré qu'il est possible de prédire un diagnostic de cancer des ovaires à partir des données d'achat par carte de crédit. Les achats d'antidouleurs et d'antiacides augmentent dans les mois ou les années précédant un diagnostic, dit James Flanagan, auteur principal de l'étude. Nous tentons maintenant de voir comment faire une étude prospective. Il y a évidemment des problèmes éthiques importants. Il faudrait avoir accès aux données d'achat de milliers de femmes pour prouver que c'est une approche valable. La docteur Gilbert n'est pas convaincue que cette approche tiendra la route. Quand une femme a des douleurs, le cancer des ovaires a déjà migré vers d'autres organes. Alors, je ne pense pas que ça permettra de détecter des cancers à un stade précoce. En savoir plus. Source : Société canadienne du cancer. 40 200. Nombre annuel de décès du cancer chez les femmes au Canada. 9 800. Nombre annuel de décès du cancer du poumon chez les femmes au Canada. 5 400. Nombre annuel de décès du cancer du sein chez les femmes au Canada. C'était « Détecter le cancer des ovaires avant qu'il se propage ». Un texte de Mathieu Perrault, paru le 16 juin 2024 dans La Presse.